Et un bon samedi matin à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Libertaire. Confectionnez-vous votre breuvage dynamisant préféré et asseyez-vous pour le chiffon radote. Et s'il radote, c'est que les choses ont été dites, ou plutôt écrites, dans le chiffon. Dans quoi ? Le Chiffon, le journal indépendant de Paname et sa banlieue. Journal régional d'enquête, de réflexion et de dissection du temps présent. Indépendant, vous avez dit ? Eh oui, réalisé à la seule volonté des petites mains bénévoles sans autre ligne éditoriale que ce qu'il se passe dans la région et l'œil très ouvert sur le monde. Et, il est vrai, la ligne cardinale officieuse de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Pas de kiosque officiel, seulement quelques points de vente disséminés dans toute l'Île-de-France à retrouver sur notre site lechiffon.fr. Chaque mois, une lutte, un combat, une bouteille à la mer pour mieux comprendre les enjeux du monde de demain, comme on dit aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler du blanc de Meudon ? Ce matériau si particulier qui vient d'une des seules carrières de craie en France qui fait l'objet aujourd'hui de toutes les attentions. Et pour cause, il est question de combler une carrière dont l'exploitation remonte au XVIIIe siècle. Lieu d'extraction pendant quasiment deux siècles d'un matériau formé il y a 75 millions d'années, c'est un endroit singulier de France qui va peut-être être comblé d'ici peu. Pouvant autant servir à fabriquer la chaux que la craie des écoliers, la craie de Meudon a donné son nom à une couleur. Les lieux ont connu un foisonnement d'affectations qui représente un patrimoine en lui-même, immatériel celui-ci. Rodin, notamment, s'installera non loin de là, en 1895, et fera venir des sculpteurs qui graviteront dans ce monde à part. Sous l'occupation, des travailleurs contraints ralentiront autant que possible la production d'armements installés là, tout en s'efforçant d'entretenir le lieu. Puis viendra le temps des champignonnières qui ouvriront dans les années d'après-guerre, avant de laisser la place à des artistes dans les années 70. Tant d'usages pour un lieu si particulier et aujourd'hui menacé. Après être passé entre les gouttes de projets immobiliers pharaoniques, la carrière est aujourd'hui en voie de comblement. Ce projet se heurte cependant à bon nombre de résistances et autour de la table, j'ai avec moi trois défenseurs de l'intégrité des lieux et un absent, le rédacteur de l'article du journal du Chiffon, qui évoque la craie de Meudon, journal édition d'automne, qui est disponible dans tous les kiosques. Tout d'abord, nous avons Magdalena Labbé, gardienne des espaces souterrains. Plus à ma droite, Olga Boss, amoureuse de la nature. Et enfin, Nikos, militant d'Extinction Rébellion. Et le grand absent, Alain Dordé, membre de la rédaction. Les vapeurs de café ne sont pas encore totalement dissipées chez tout le monde, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour que l'auditeur mal réveillé nous comprenne bien, faisons un petit tour de table des points saillants de l'histoire de cette carrière. Mon bref résumé méritera largement d'être complété.
Bonjour, je suis Magdalena, donc. Je suis meudonnaise. J'habite pour le coup au-dessus de la carrière en question que tu viens parfaitement de nous décrire. Donc effectivement, le comblement, c'est quelque chose qui a démarré depuis 2017 sur une volonté de la mairie de Meudon de mettre en sécurité, selon ses termes, les carrières de Meudon. Donc selon les nôtres, c'est pour remettre un petit peu de contexte, ça fait 40 ans que la colline Rodin, puisque les carrières dont vous avez parlé se trouvent en dessous d'une colline qui s'appelle la colline Rodin. Cette colline Rodin, c'est environ 6 hectares actuellement qui ne sont pas urbanisés. Donc on a au-dessus une friche avec une végétation très intense qui a repoussé. On a également un petit bois et on a également des ateliers d'artistes. Et en dessous de cette colline, on a la carrière de craie qui est donc classée depuis 1986 grâce à son architecture, grâce également à son côté scientifique, puisqu'énormément en fait de découvertes scientifiques ont été faites dans ces carrières-là. Donc depuis 40 ans, on a évidemment une commune qui souhaite urbaniser ce secteur, puisqu'on est à Meudon, Meudon 92, un banlieue très chic et très huppé de la région parisienne, où le mètre carré avoisine les 10-15 000 euros désormais, hein, il faut le savoir. Et donc on a vraiment toute une frange de Meudon, quand vous regardez de Google Maps, c'est très 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 flagrant, toute une frange de cette ville qui est verte et qui n'est pas encore densifiée. Donc ça ça fait 40 ans qu'il y a une volonté de densifier cette zone. Énormément de projets ont été avortés par le passé, puisque les projets immobiliers nécessitent des fondations profondes pour ancrer les bâtiments et donc détruire la carrière. Et tous les projets avortant les uns après les autres en 40 ans, la mairie de Meudon en 2017 a changé son fusil d'épaule et a dit « Nous n'allons pas détruire les carrières pour construire des immeubles, nous allons faire un projet de réaménagement en plusieurs phases ». Et la mairie a commencé en ne nous parlant que d'une seule phase, sans jamais nous montrer les phases suivantes. La première phase étant les carrières sont très dangereuses. Nous avons une étude théorique prouvant que potentiellement ces carrières peuvent être dangereuses. Donc nous allons procéder à leur mise en sécurité. Mettre en sécurité une carrière, il y a plein de possibilités de le faire. Seulement la seule et unique méthode que la ville de Meudon a étudiée et a projetée et est en train, pour le coup, de réaliser dans les carrières de Meudon, c'est la destruction. Donc on va mettre en sécurité ces carrières en les détruisant de moitié. Et donc le comblement, factuellement, c'est rentrer des déblais de chantier à l'intérieur de la carrière pour la remplir du sol au plafond afin, en fait, de la faire disparaître à jamais et ensuite venir injecter par dessus l'équivalent à peu près de deux piscines olympiques de béton pour consolider tout ça. Donc nous on se bat depuis effectivement très longtemps contre cette première phase du réaménagement de la colline qui est une destruction pure et simple de la plus belle moitié qui plus est des carrières arnaudais.
Merci. Olga,
peut-être ? Oui, alors bonjour. Olga, donc moi j'habite Meudon aussi, et j'habite pas très près de la colline Rodin, mais enfin Meudon c'est petit, et puis je suis absolument stupéfaite de voir tous les projets qui abîment la nature, abîment le patrimoine paysager, abîment le patrimoine artistique, architectural, souterrain. En fait, la volonté de cette mairie, c'est de tout bétonner, tout bitumer, donc... Et dépenser énormément de capitaux, en fait, de la ville, du budget de la ville, pour abîmer ce qui existe et qui est absolument irréversible. C'est-à-dire que quand on détruit, quand on comble une carrière qui est un véritable trésor, hein, c'est absolument somptueux. Quand on rentre à l'intérieur, on est stupéfait de voir la beauté de ce lieu et l'intérêt de ce lieu. C'est magique. Alors, dans le monde entier, c'est un projet complètement démodé, c'est un projet qui n'est pas sérieux, parce que dans le monde entier, maintenant, on parle d'architecture souterraine. On construit des projets souterrains pour éviter la chaleur, pour d'autres raisons, la sécheresse. Et chez nous, on le détruit. C'est-à-dire que ça existe, ça ne coûte rien. Il n'y a pas un caillou qui est tombé dans cette carrière depuis 100 ans. Et on veut nous faire croire qu'elle est dangereuse pour en fait faire du bitume et du béton dessus. C'est pas sérieux, c'est des projets démodés, des projets de promoteurs alliés avec des mairies qui malheureusement c'est comme ça dans le 92. Ici les Moulineaux est très bitumé, bétonné, et ça vient partout. Alors on nous dit oui, vous avez encore beaucoup d'espace naturel. Non, on détruit pas des choses comme ça. Et nous, on est obligés, au lieu d'aider la mairie à construire des projets intelligents, d'avoir des réflexions sur le futur, etc., on est obligés de se battre contre des projets stupides, destructeurs. C'est un écocide, en fait. Parce que si on remarque qu'on détruit 8 km de carrière à 10 degrés toute l'année, qui sont en plus un trésor scientifique, artistique, acoustique, et qu'on peut en faire plein de trucs, on peut avoir des projets intelligents, on peut vouloir faire de l'agriculture souterraine, on peut vouloir faire... d'un abri, on peut vouloir faire des concerts, on peut vouloir faire plein de choses dans cet endroit et qui ont existé, donc la preuve elle est là.
Vous y avez des souvenirs en tant que meudonnaise?
Oui, tout à fait, des souvenirs parce qu'il y a eu des concerts organisés, des choses, il y a un peu longtemps maintenant, il y a même un disque enregistré sous terre, et puis aussi parce que c'est le champ d'investigation de tous les ados et jeunes adultes qui ont passé beaucoup de soirées. Parce qu'il y a tout là, il y a tout pour être passionnant. On peut faire un parc d'attractions souterrain. En fait, c'est quand même très très étrange de continuer à avoir des politiques aussi stupides.
Je peux vous demander la référence du disque pour les auditeurs produit dans le.
Ouais, bah la référence, c'est un disque de musique sacrée qui a été enregistré dans les carrières, et c'est Venance Fortuna. C'est un ensemble de chants grégoriens, si je ne dis pas de bêtises, qui a été enregistré parce qu'effectivement, faut savoir quand même que la carrière Arnaudet a été étudiée sous toutes ses coutures, et notamment de manière acoustique. Et on a des gens du CNRS qui sont venus dans les carrières pour étudier un petit peu l'acoustique de ce lieu. Il est quand même ressorti des études que dans certaines galeries d'Arnaudet, l'acoustique est meilleure que certaines plus grandes salles de spectacle comme l'Opéra de Paris, etc. Donc effectivement, c'est un lieu très riche, comme le disait Olga, acoustiquement et à plein d'autres niveaux. On aura, j'imagine, l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai qu'Arnaudet a énormément de richesses.
Donc, j'espère que les auditeurs comprennent qu'on parle bien plus que d'une carrière.
Voilà, et puis j'ajouterais qu'au-dessus et autour de la carrière, il y a également un ensemble qui est tout à fait remarquable de biodiversité. C'est un biotope incroyablement riche. Il y a des renards, des petits mammifères, des oiseaux qui ne nichent nulle part ailleurs en Île-de-France, parce qu'ils avaient la paix là, qui se sont développés, des insectes. Et au milieu d'un petit bois incroyable, parce que c'est... Quand, il ne faut pas parler d'arbre remarquable, on a toujours ce mot arbre remarquable qui est complètement démodé. Ce qui est remarquable maintenant, on le sait, c'est une population d'arbres et qui vit et qui entretient la vie avec elle sur le plan du vivant à toutes les strates. Donc quand on dit un parc public, le maire veut faire un parc public sur un petit espace, c'est ridicule. On tue la vie et on va faire un espace stérile. Bon, qui va reprendre petit à petit. Il y aura bien quelques insectes qui vont revenir et certains arbres qui vont pousser. Quoi qu'avec la sécheresse, les autres arbres poussent très mal. Mais bon, là, c'est un biotope riche qui existe. On sait à quel point c'est important, y compris pour la vie humaine. On ne le détruit pas. Ils ont déjà fait une énorme saignée sur cette colline pour faire passer des camions qui amènent justement les déchets de chantier dans la carrière. Ils ont rasé une partie de la forêt, ils ont mis une énorme couche de béton et les camions passent dessus à longueur de journée. Mais c'est aberrant. En plus, ils disent que c'est dangereux de faire passer les camions. Or, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Il y a des ouvriers à l'intérieur de la carrière, ils passent toute la journée avec du poids, ils mettent du poids. Donc si c'était vraiment dangereux, c'est bien pire que d'organiser un petit concert ou de faire des champignonnières à l'intérieur. C'est... Enfin, de qui se moque-t-on?
De qui se moque-t-on? Alors, je dois informer les auditeurs que nous accueillons enfin l'auteur de l'article qui est paru dans le Chiffon sur le destin de la carrière. Et juste avant de vous interroger sur votre recherche, Alain, je voulais juste donner la parole un moment à Nikos, qui a été brièvement présenté, militant d'Extinction Rebellion.
Oui, bonjour. Donc, Nikos, militant d'Extinction Rebellion. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus par rapport à ce qu'a pu dire Magdalena et Olga. C'est vrai qu'en début d'émission, on aurait pu se demander ce que vient faire un militant écologiste dans la défense d'une carrière. En général, c'est plutôt le contraire. Mais en fait, non, il n'y a pas que la défense de la carrière qui est, c'est vrai, un véritable jet de patrimoine. Hein. Encore une fois, il faut aller sur Internet, vous tapez carrière Arnaudet, vous regardez les photos, pour vraiment se rendre compte, c'est assez incroyable. Ne serait-ce que par la beauté du lieu, quoi. Mais il y a aussi tout cet ensemble dont a bien parlé Olga aussi, avec la friche végétale qu'il y a au-dessus, qui est un lieu de biodiversité. C'est vraiment, on en a besoin dans notre... On l'a vu cet été, hein. Je pense que là, maintenant, on a compris qu'on avait besoin de sources de fraîcheur, surtout dans nos grandes villes. Entre deux quartiers, il peut y avoir des écarts de degrés très importants en fonction justement de l'urbanisation, comment elle a été faite. Et là, c'est un véritable puits de fraîcheur, cette friche. En plus de la biodiversité, là aussi, c'est un argument en lui seul largement valable.
10 degrés toute l'année, hein, c'est ça?
Pardon? Ah non, alors là, je parlais au-dessus. La galerie, oui, ça c'est 10-12 degrés, je crois. Mais là, je parle de la friche qui est au-dessus et qui est aussi une source de fraîcheur pour les habitants, pour les riverains et les riveraines. Donc ça aussi, c'est très important à garder, au-delà du fait qu'on va détruire aussi toute la biodiversité. Ça a déjà commencé, hein, du reste. Et puis, il y a aussi le projet immobilier qu'il y a derrière, 28 000 mètres carrés, hein, si je me souviens bien, d'habitat de luxe, évidemment, hein, donc ça n'a pas du HLM. Et puis 28 000 mètres carrés, donc avec l'urbanisation encore et toujours, ce qui est, je le rappelle, quand même la première cause de l'extinction du vivant, c'est quand même la perte de l'habitat, de la faune sauvage. Voilà, ces projets en font partie, c'est dans notre temps.
Très bien. Et vous n'êtes pas meudonné, donc vous
si, avez... je suis meudonné,
si,
en plus.
Vous y avez aussi des souvenirs d'adolescence.
Bah oui, non, je ne suis pas, pas de naissance, mais je suis habitant de Meudon depuis une bonne vingtaine d'années. Ouais.
Très bien. Vous auriez un petit souvenir à nous partager avec cet espace, cette friche?
Alors, moi, je l'ai connu assez sur le tard, hein. Enfin, les carrières, en tout cas. Je suis arrivé dans la lutte très tardivement. Je suis un résistant de la dernière heure. Mais c'est une super ville, hein, Meudon. Hein. C'est vraiment, il y a un patrimoine historique assez incroyable. Notamment, moi, je pense plus à l'architecture, parce que c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu, comme ça, quoi. Donc, il y a. Mais à partager en particulier. Je sais pas, j'ai rien qui me vient comme ça, ça va venir peut-être après.
Très bien, revenez vers nous. Et alors, re-bienvenue à Alain.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous étiez au courant un petit peu de cette lutte avant de vous pencher dans vos recherches pour la rédaction de l'article?
Ben, pas vraiment, mais en fait, j'avais découvert le lieu un peu par hasard un jour où je me baladais ici, les Moulineaux. Je suis rentré donc. Par la limite de Meudon et d'Issy-les-Moulineaux, où il y a un chemin là, qui monte vers le musée Rodin. Et j'ai découvert ce lieu et j'étais complètement étonné, parce que c'était un lieu complètement apparemment vide, avec un grand espace. Et je suis monté là, bon, j'ai un peu escaladé, et je me suis retrouvé sur ce grand espace dégagé, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Donc j'ai rencontré des gens, un groupe de jeunes gens là, qui étaient là, qui m'ont un peu expliqué ce que c'était, parce qu'ils en savaient. Et puis quand j'ai appris qu'il y avait une lutte à Meudon concernant les carrières, j'ai fait le lien entre les deux, évidemment. Et donc je me suis à ce moment-là intéressé, et c'est là où je suis allé à une première manifestation là, qui avait lieu devant la mairie, qui ensuite est allée jusqu'aux carrières, et c'est là où j'ai rencontré Magdalena, Olga et les militants de Meudon. Voilà, donc à partir de là, ça m'a donné vraiment l'envie de faire un article sur cette lutte-là. D'autant plus que, bon, moi, je m'intéresse depuis un certain temps aux luttes sur la région parisienne et l'Île-de-France, et que il y en a plein, il y en a partout, il y a des projets partout, c'est infernal. Et donc, c'est une lutte qui me paraît, parmi d'autres, tout à fait emblématique pour ce qui a dû être dit avant, puisque je n'étais pas arrivé au début. Mais j'imagine que, voilà, on peut tout à fait, à partir de cette lutte, élargir le sujet et puis constater que ça se passe partout dans la région parisienne, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont en train de complètement miter la région. Voilà.
Et comme vous avez procédé à des recherches pour cet article, on est sur une partie un peu historique. Vous auriez un point saillant de l'histoire de cette carrière à nous livrer?
Ben, un point saillant, il y en a plein, parce qu'il y a une histoire qui est longue, finalement. C'est-à-dire que ça part, en gros, de la première exploitation au milieu du 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle. Et puis voilà, donc des points saillants, il y en a plein. Je pourrais citer une anecdote parmi d'autres. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale où les Allemands, donc, qui étaient sur place, avaient décidé de... Alors là, peut-être que si les choses s'étaient faites, ils auraient peut-être comblé les carrières, puisqu'ils avaient décidé d'en faire un endroit de dépôt d'armes, je crois, si je ne me trompe pas, ou de fabrication d'armes même. Et donc, ils ont appelé évidemment les ouvriers français qui étaient au STO à travailler, à aménager les carrières dans le sens qu'ils voulaient. Et les ouvriers ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire durer les choses, c'est-à-dire qu'ils allaient très lentement. Mais en même temps, d'après ce qu'on sait, ils ont contribué aussi à améliorer d'une certaine manière les carrières, puisqu'ils ont fait tout un travail de réfection, de réfection des piliers, etc. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il y a... Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, dans l'histoire en tout cas, c'est qu'à chaque période, il y a eu les carrières de craie, il y a eu les champignonnières, et à chaque période, il y a eu un respect du lieu, à chaque fois, et un embellissement du lieu, je dirais même. Donc, ça, voilà, d'autant plus, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui ne pas respecter ce lieu qui a été respecté, embelli, amélioré par des générations?
Très bien, merci. Alors, après la première esquisse de ce qui semble être bien plus qu'une carrière, comme on l'a vu, réfugions-nous quelques instants dans le dernier refuge sonore de l'artiste danois Trent Moller, entre ambient, new wave et minimal, The Very Last Resort.
Auguste Rodin s'installe au sommet de la colline, dans une villa qu'il fait agrandir, tout comme le parc alentour. Viennent alors des artisans liés aux activités du sculpteur. Environ 50 d'entre eux y officient en 1900. À la mort de Rodin en 1917, sa propriété est léguée à l'État, ce qui explique que le ministère de la Culture possède environ 20% des carrières situées en sous-sol. L'exploitation de la craie a cessé dans les années 20, mais elle laisse un héritage inestimable. Les carriers, sûrement par goût du travail bien fait, ont comme peigné la pierre d'une chevelure de stries suivant les formes et les courbes qu'ils taillaient, créant ainsi un monde hors du monde, pétrifié, creusé de galeries voûtées, d'autant plus puissantes et délicates qu'elles sont nées d'un respect profond pour le site.
Atterrissons de nouveau sur Radio Libertaire. Vous êtes toujours en compagnie du chiffon qui radote Et si les paupières peinent à s'ouvrir, resservez-vous donc un petit café. Pour accompagner ce breuvage, j'aimerais vous citer Edgar Morin, sociologue et philosophe, cité par Albert Jacquard, généticien et essayiste, qui publiait en 1982 dans Au péril de la science, en la décrivant de la manière suivante. Toujours porteuse d'espoir pour certains, la science est devenue simultanément source de crainte pour beaucoup. Une attitude de rejet est apparue et peu à peu se répand. Présentée parfois comme la seule voie permettant d'éviter la catastrophe définitive, ce rejet est facilement justifié par les excès auxquels a conduit l'efficacité scientifique. À ceux dont l'imagination est trop courte pour évoquer les apocalypses nucléaires, il suffit de regarder la détérioration du paysage qui les entoure. Les champs de blé, autrefois vibrants de coquelicots et du chant des oiseaux, sont devenus, au nom du rendement, d'immenses et sinistres camps de concentration. Et Albert Jacquard de conclure, je cite, « On pourrait sans fin et inutilement prolonger la liste des bienfaits et des méfaits de la science en quête d'un bilan illusoire. Ce thème de réflexion est pourtant nécessaire. La science n'est pas un arbre autonome se développant selon ses propres lois et dont nous récolterions passivement les fruits. Elle est une entreprise collective, notre entreprise, et c'est à nous de l'orienter. » Les incantations pro-scientifiques de la fin du 19e, anti-scientifiques de la fin du 20e, sont également inutiles. L'important est de comprendre à quel processus nous avons affaire et auquel nous participons. Et d'abord de s'interroger sur la nature de cet objet que nous désignons par le mot « science ». Si j'ai choisi ce sujet, j'aimerais cependant remplacer le mot science par le mot développement immobilier, valorisation du patrimoine, création d'espaces verts connectés, ou que sais-je. Qu'est-ce que vous évoquent les rhétoriques qui sont en place aujourd'hui? Vous évoquiez tout à l'heure, Magdalena, la rhétorique de la protection de l'individu. Qui s'opposerait à une telle rhétorique?
Oui, bah effectivement, c'est vrai que la protection du patrimoine... mise face à l'extension considérable du développement immobilier, a beaucoup de mal à perdurer, puisqu'effectivement le développement immobilier est prépondérant dans nos sociétés et n'a de cesse de nous écraser chaque jour un peu plus. C'est exactement ce qu'on vit à Meudon, puisque bien que caché derrière une mise en sécurité de ses carrières, etc., on est encore et toujours sur un réaménagement complet d'une colline avec tout ce qu'on a de plus classique à proposer, du projet immobilier, rasé complètement tous les existant, tout ce qui est du domaine du beau, du naturel, du bien-être pour les gens, et le remplacer par du béton, des immeubles, du parc public avec des grillages et de l'herbe bien tendue. On en est là aujourd'hui à Meudon.
Olga, en tant qu'amoureuse de la nature, qu'est-ce que ça vous évoque?
Oui, elle a complètement raison. Le problème, je pense que c'est qu'on a affaire à des gens qui sont dans des réseaux financiers de pouvoir, qui tiennent toutes ces communes et sans doute plus haut, qui sont dans un discours de greenwashing où ils disent « Nous, on préserve la nature, on préserve les petits oiseaux, regardez, on met des petits abris dans les arbres. » Mais en fait, leur projet, c'est de tout démolir le vivant pour bétonner et pour arriver à densifier. Alors qu'on sait qu'en Île-de-France, il faut arrêter de densifier. On va bientôt être en rupture d'un tas de services que rend la nature parce qu'on tue la nature. Et tant que plus on fait ça, plus on fait... Pourquoi on fait ça? En fait, c'est parce que derrière, il y a des intérêts financiers énormes. En face de Meudon, il y a l'île Seguin, qui est une île qui est entre sur la Seine, entre Boulogne et Meudon, ici les Moulineaux, ils ont fait une énorme ceinture de béton, gigantesque, pour faire du parking, des bureaux, encore 120 000 mètres carrés de bureaux, etc. Et le maire de Meudon applaudit. De toute façon, le maire de Meudon, il est en liaison avec qui? Avec le maire de d'ici les Moulineaux et avec le maire de Boulogne, ils sont tous amis. Santini a écrit dans un article du journal il y a quelques années, j'ai formé mes Santini Boys et maintenant je les mets aux manettes. Et le maire de Meudon, il est resté 12 ans chef de cabinet de Santini. Santini, vous voyez, c'est une ville qui a complètement changé. C'est-à-dire, c'est une ville où il y a des petits immeubles, des gens qui vivaient, des petits jardins. Et c'est devenu une cité de verre. Et de, alors, il y a des projets. Enfin, moi, je trouve ça assez froid, assez difficile à vivre dans un endroit comme ça, qui est, pour moi, complètement artificiel. Bon, il y a forcément des gens qui sont heureux, heureusement. Mais la mentalité de ce maire qui a 80... et quelques, André Santini, et de ses sbires qui ont été formés par lui, c'est de continuer ça. C'est-à-dire de toujours plus faire reculer la nature et faire avancer leurs projets. Il faut savoir que 28 000 mètres carrés de logements à Meudon, donc dans cette colline, une des dernières collines vertes qu'ils veulent supprimer et aménager, alors ils vont remettre trois petits arbres qui ne pousseront pas, mais le coût en jeu, c'est peut-être 300 millions de chiffre d'affaires pour vendre ces biens, peut-être plus. Donc, ils sont fous furieux contre nous, parce que nous, avec zéro moyen, on risque de faire avorter des projets qui sont colossalement enrichissants pour l'industrie de l'immobilier. Alors, il y a Bouygues qui est là, Bouygues, Vinci, etc. Ils ont déjà des projets. Hein. C'est déjà, ils ont déjà proposé des trucs. Ils sont dans la coulisse depuis un certain temps. Le même en face, sur l'île Seguin, c'est Bouygues qui veut construire ses 120 000 m² de bureaux, plus un hôtel, etc. Une île verte, ils auraient pu nous faire une île verte à l'entrée de Paris. Quelque chose qui soit un dernier rempart de la biodiversité à l'entrée d'une ville aussi dense que Paris. Non, ils densifient aussi cette île. Alors après, ils mettent des blocs de cailloux dans du fer et dessus, soi-disant, toute la végétation qui est partie. Et les animaux qui sont partis, ils vont revenir. Oui, enfin, ils vont revenir peut-être, et peut-être un jour. Enfin, il ne fallait surtout pas faire ça. Faire des parkings pour faire des parkings dans une île qui a 20 mètres des berges. Bon, on pouvait imaginer autre chose à notre époque. Enfin, maintenant, on sait que tout ça, c'est dangereux. Donc, pourquoi ne pas l'arrêter? Ben, parce qu'il y a trop d'argent en jeu, c'est ça le problème. Et à Meudon, c'est la même chose au niveau de l'industrie du numérique, c'est-à-dire qui est chez lui à Meudon, c'est celui qui met des antennes 5G, il y a un data center en projet sur la commune de Meudon pour Bouygues encore. Et tout ça, il y a une articulation entre ces magma du capitalisme qui font que la nature est en profond danger, et nous, du coup, on est en profond danger, mais ça se voit pas, c'est pas immédiat. Il faut se projeter. Quand les antennes 5G avaient des caméras de surveillance partout, c'est pas pour notre bien qu'ils le font, c'est pour vendre des objets connectés, c'est pour faire après des... regardez ce qui se passe avec le compteur Linky, ils sont en train de vouloir arrêter nos chauffe-eau à distance. C'était ceux qui se battaient contre le compteur Linky il y a des années, c'était pas par hasard. C'est bien parce que derrière tout ça, il y a un marché qui... Ben, je sais pas, est-ce que l'homme a toujours envie d'être esclave? Est-ce que ça a une caméra, une antenne, d'un truc? Bon, moi aussi, j'ai un téléphone. Un smartphone. Mais le maire de Meudon, il est d'une part à la Caisse des dépôts et consignations, il y travaille. La Caisse des dépôts et consignations, elle est dans toutes les affaires immobilières de partout. Elle prête de l'argent aussi. Bon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une potentialité de conflit d'intérêts entre ce maire qui a la Caisse des dépôts et consignations, qui est très lié avec Bouygues, qui s'installe partout autour et dans la ville, et puis tout ça, est-ce que ça il ne faut pas que ça nous révèle qu'il y a quelque chose qui est faussé? Parce qu'on raconte aux gens que c'est pour leur bien. Les caméras de surveillance, on leur raconte que c'est pour les protéger des méchants qui vont arriver dans mon lieu. Mais tout ça, c'est faux. C'est totalement faux. Donc, que faire pour arriver à arrêter cette espèce de mouvement sans fin? On dirait un paquebot qui continue alors qu'il n'y a plus de mer. Quoi. Ça y est, ils sont enrichis, c'est bon. Il faut qu'ils changent de modèle. Et puis, il faut qu'ils arrêtent de nous raconter que tout ça, c'est pour le bien de la population. Et donc, faire avoir des services de com énormes qui racontent des mensonges à longueur de journée. Et nous, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, on ne peut pas équilibrer la communication. C'est des fossés.
Je vous pose la question à tous les quatre. La carrière a quand même résisté à plusieurs projets. Et je crois, Alain, que vous écrivez dans votre article, que Bouygues a déjà été battu... a déjà été repoussé avec un projet jugé trop dense. Donc, quel point de passage, pourquoi toutes les rhétoriques s'emballent et pourquoi ce projet apparaît nécessaire aujourd'hui, un risque, comme vous me disiez tout à l'heure, avant le début de l'émission, pas une pierre n'est tombée depuis 100 ans, et pourtant, et on a l'impression qu'il y a un risque majeur pour la sécurité des citoyens. Donc, que s'est-il passé d'un coup d'un seul?
Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour combler une carrière qui est classée pour des raisons scientifiques et historiques, qui ne sera pas déclassé. Donc là aussi, c'est aberrant. On détruit un patrimoine. Si c'est classé, c'est pas par hasard. Un dossier de classement, c'est lourd, c'est compliqué. Il y a des preuves scientifiques de tout ce que est artistique et paléontologique, de tout ce qui est dans cette carrière. Donc si elle a été classée, c'est pas par hasard. Comment arriver à détruire quelque chose comme ça? Eh bien, on dit c'est dangereux, ça va s'écrouler, regardez, c'est pas possible. Il y a eu un effondrement il y a 60 ans, 60 ans, à Clamart. Et il va se passer la même chose, regardez, attention. Le maire nous raconte en conseil municipal qu'il ne dort plus parce que ça va s'effondrer. Mais c'est absolument faux. Et il y a des géologues qui ont écrit que ce qui s'est passé à Clamart, sur lequel effectivement il y a eu des immeubles de construits au-dessus, ça n'a rien à voir avec la structure de la carrière de Meudon. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment sur l'argument sécuritaire qui est l'argument massue. On emploie toujours cet argument. Hein. Quand on veut couper des arbres parce qu'on veut faire des immeubles, ça ne marche pas. Par contre, quand on dit que les arbres sont malades, ça marche beaucoup mieux. Ben là, on est exactement sur le même cas de figure. Hein. Pendant 40 ans, on a voulu détruire la carrière pour construire des immeubles. Ça n'a jamais marché. Tous les projets ont été abandonnés les uns après les autres. Maintenant, on est sur un comblement de la carrière par mesure de sécurité. C'est pour sauver le peuple meudonnais que la mairie est en train de détruire son patrimoine, n'est-ce pas? Il faut quand même savoir qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur ces carrières de par tous les projets immobiliers qui ont été faits précédemment. Hein. Quand on veut construire des immeubles, on étudie toujours le sous-sol. Jamais aucune étude n'est parvenue à dire qu'il y avait un danger sur cette carrière. Donc on a des dizaines d'études qui disent que cette carrière n'a pas de souci. La mairie a fait une énième étude qui est purement théorique. C'est une étude où vous êtes sur informatique, vous indiquez des coefficients de sécurité qui sont choisis de manière arbitraire, des coefficients de vieillissement de la craie, comme si toutes les craies vieillissaient de la même manière partout. Vous rentrez ça dans un tableau Excel, vous appuyez sur Entrée, je vous schématise un peu le truc, un peu vulgairement. Hop, ça vous dit, attention, 80 piliers sont potentiellement en danger et peuvent peut-être un jour s'effondrer. C'est pas des techniciens qui ont été dans la carrière qui ont dit, oh, attention, il y a des fissures, des éléments qui tombent, des piliers qui s'effondrent, c'est très dangereux. Pas du tout, la carrière n'a pas bougé depuis 150 ans le jour où elle a été construite. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un argument purement théorique et qui malheureusement fait mouche au tribunal, puisque nous, on aurait pu fournir effectivement une étude contradictoire. Sauf qu'une étude contradictoire en étude de stabilité des sous-sols, on est quand même sur une carrière de 8 km, on n'en a pas parlé, mais la carrière Arnaudet, c'est 8 km de galeries, des galeries qui font en moyenne 2-3 mètres de large jusqu'à 10 mètres de haut. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un espace immense. Et mettre ça en sécurité et faire les études pour les mettre en sécurité, rien que faire l'étude, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc en fait, nous, petites personnes meudonnaises, on n'a pas évidemment la structure financière nous permettant de faire ces contre-études, ces contre-expertises. Donc le tribunal prend l'étude qui dit que potentiellement il y a un danger. Personne ne va prendre le risque d'aller contre ça. Donc on laisse faire. L'argument sécuritaire, c'est l'argument massue. Donc voilà comment on arrive à détruire un patrimoine. Et puis, je pourrais même aller plus loin. Et si, éventuellement, il y avait un potentiel risque? Très bien, peut-être qu'effectivement, il y a un potentiel risque. Nous, on n'est pas, après tout, techniciens. Pourquoi pas? Des carrières de craie, en fait, en France, il n'y a pas que celle-ci. Il y en a dans plein d'autres villes. Déjà, à Meudon, il faut savoir qu'il y en a plein à Meudon, il n'y a pas que celle-ci. Celle-ci est la plus belle, c'est celle qui est classée, celle dont tout le monde parle. Il y a des carrières de craie abandonnées aussi vastes partout dans la ville de Meudon, avec déjà des immeubles au-dessus qui ne sont pas comblées, qui ne sont pas étudiées. Tout le monde s'en fiche. Ici, par contre, à Arnaudet, on a des dizaines d'études parce qu'on a des projets ici. Et on a des carrières de craie bien plus loin, par exemple à Reims, que tout le monde connaît, qui sont pour le coup classées au patrimoine mondial de l'UNESCO cette fois-ci. Et on est sur des carrières qui, si vous voulez, si un jour elles ont le moindre souci, s'il y a une pierre qui tombe, s'il y a, un besoin de sécurisation, ce qui est déjà arrivé, hein, jamais le patron de Veuve Clicquot ou de Moët Chandon ou je ne sais qui va se permettre de se dire bon bah pour sécuriser ma carrière classée dans laquelle je travaille, je vais la détruire. Bah, évidemment que non, en fait il y a plein d'autres méthodes pour sécuriser une carrière et des méthodes qui permettent de préserver 100% des galeries. On n'est pas obligé de détruire une carrière en la remplissant de déchets de chantier. On aurait pu faire des piliers maçonnés, on aurait pu étudier plein de solutions alternatives pour préserver le site, et la mairie de Meudon ne l'a jamais faite. Moi, j'ai été au tribunal depuis 4 ans sur ce dossier-là. On a demandé les études de consolidation alternative, on a demandé les devis, on n'a jamais rien eu. Jamais. Donc, en fait, il y a plein de solutions. Non seulement on n'est pas sûr que ça va s'effondrer, et deuxièmement, pourquoi la détruire? Il y a d'autres solutions. Donc, on est vraiment dans une destruction pure et simple du patrimoine qui est volontaire, alors qu'il y a d'autres solutions. Et l'objectif, comme on le dit depuis tout à l'heure, et ça, la mairie nous l'avait bien caché au début, c'est qu'on a... Là, on est dans la phase 1 de « on va sauver les Meudonnais, etc. » C'est pour vous qu'on fait ça, sinon on va tous mourir, blablabla. Bla, 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 bla. C'est qu'au-dessus, on a une phase 2 et une phase 3. Et la phase 2, c'est comme on l'a si bien dit, 28 000 m². La phase 3, c'est on rase complètement un bois dans une période où on a besoin de verdure. Tout le monde nous dit quand il fait chaud, je vais sur la colline Redin. Quand on avait 42 degrés à Meudon, il y avait du monde qui se baladait sur la colline Redin parce qu'il fait moins chaud. C'est un fait, il n'y a pas de béton dans le sol, c'est de la terre. C'est les gens respirent. Le peu d'artistes qui vivent encore sur la colline Redin sont ravis d'y vivre en période de canicule. Et pendant qu'on a 42 degrés à Meudon, on s'empresse de lancer des projets de bétonisation, de on va raser un bois. On est enfin, dans l'ère dans laquelle on vit, c'est aberrant quand même. Et on nous dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour faire un parc public. Mais pourquoi raser un bois pour faire un parc public? Entretenons ce bois et puis permettons aux gens d'aller se promener dans le bois, par exemple, plutôt que de faire un parc avec des grilles, trois bancs et de l'herbe. Enfin,
et vous me permettez de rebondir, je voulais préciser, Olga, vous avez parlé tout à l'heure de greenwashing, mais je ne sais pas si c'est très clair pour tous les auditeurs, peut-être. Donc si vous pouvez expliquer cette notion, et je crois que ça rejoint cette idée de raser un bois pour faire un parc.
Oui, voilà, c'est la Libye. Puis il y a des gens qui disent, ah, mais c'est bien, on va avoir un parc public. Déjà, il y a beaucoup de parcs publics à Meudon, des grands. Il y a une forêt, enfin, il y a plein de choses. Et donc, ce n'est pas du tout la peine de détruire un bois qui est naturellement vivant, comme je le disais tout à l'heure, pour construire un parc public. Le parc public, c'est on rase tout, on met des revêtements imperméables, après on plante quelques arbres qu'on va aller chercher loin et qui auront du mal à s'adapter, auront du mal à se développer parce qu'un grand arbre, il va chercher l'eau très profondément avec son système racinaire, et un petit arbre, non, ses racines sont en surface, donc il lui faut au moins 2 ans pour déjà descendre un peu, installer un système racinaire pour tenir. Et donc, les 2 premières années, il faut les arroser avec de l'eau de la ville. Souvent, je vois des camions passer, moi, dans Meudon. Ils arrosent les plates-bandes avec de l'eau de la ville en pleine période de canicule, où on demande aux gens de ne pas arroser leur potager. Et ensuite, ces arbres ne se développeront jamais normalement. Et le temps que les oiseaux, les petits animaux, les petits mammifères, les insectes les recolonisent, il y a encore une phase longue qui arrivera ou n'arrivera pas avec tout ce qui se passe, avec l'extinction des espèces. Donc si on veut préserver les espèces et arrêter qu'elles disparaissent, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les tuer. Parce que quand on élague un arbre avec des machines qui arrachent tout, on tue les petits dans les nids, on chasse les oiseaux, ils sont perdus. Et ça, enfin, c'est de l'argent public qui détruit notre environnement. Et la mairie, avec son service de com, ils font des... Quand on l'a vu sur la colline Arnaudet, nous, on avait des flyers d'une page pour décrire le plus dans peu d'espace, le mieux ce qu'on faisait. La mairie est arrivée, elle nous a distribué lors de la manif devant le conseil municipal du 30 juin, la mairie est arrivée avec des piles et des piles de journaux qui faisaient 8 pages, dans lesquels il y avait des photos en couleur, des belles phrases qui disaient, tout était vert, et tout disait, nous préservons le patrimoine, nous préservons la carrière. Alors il y avait quand même une photo qui était un peu bécasse, c'est-à-dire qui montrait une salle voûtée avec de la brique, qui est pas, il n'y a pas de brique dans la craie, on le saurait. Et qui montrait des petites planches avec ce que la mairie voulait faire pour montrer la merveille de la carrière. Donc ça, c'était un peu ridicule. Mais tout le reste, ça se tenait assez bien. Parce qu'ils ont des services de com. À la com de Meudon, il y a une quinzaine de personnes. Pourquoi ? Je sais pas, il n'y a pas... Nous, on a pas 15 personnes. On a 15 heures par jour.
Pour une ville de combien d'habitants ?
46 000. Le maire travaille ailleurs, il faut le savoir. Le maire travaille à la Caisse des dépôts, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il travaille aussi au département. Dans ses adjoints, il y a M. Marseille, qui était avant maire de Meudon, qui est aussi très 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 proche de Pozzettini, qui est toujours au conseil municipal, et qui est également sénateur. Il a été vice-président du Sénat à un moment donné. Donc il est partout chez lui, il est partout, ils font la ils soutiennent les élections de la personne qui va bien, parce qu'en fait l'UDI elle bouge, hein, entre à droite, à gauche, pas à gauche, mais
d'ailleurs je me permets, vu qu'on est sur le petit instant politique, mais par exemple nos députés, puisqu'on est deux circonscriptions à Meudon, nos députés sont deux anciens porte-parole du gouvernement. Voilà, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec Meudon, qui ne font rien, et qui sont d'un côté Gabriel Attal et de l'autre, je ne sais plus comment Thévenot. Elle s'appelle, Prisca Thévenot, qui est l'actuelle porte-parole du gouvernement, qui sont des gens en fait choisis uniquement parce qu'ils savent parler comme il faut parler aux Meudonnais pour leur faire croire ce qu'on a envie de leur faire croire, effectivement. Donc le greenwashing, c'est des choses qui... pratique, et effectivement tu l'as bien résumé, c'est assez aberrant, puisque la communication de la mairie est dithyrambique sur ce qui va se passer sur la colline Redin, hein. Aucune construction, ne vous inquiétez pas, alors qu'effectivement il y a pourtant un projet en cours de 28 000 mètres carrés qui est lancé, hein. On peut le consulter sur le site de la métropole du Grand Paris, qu'elle nous explique qu'effectivement elle fait ça pour mettre en valeur la carrière, alors qu'elle est en train présentement de détruire la plus belle moitié du site. Donc c'est vraiment toute une rhétorique qui est mise en place pour endormir en fait le Meudonnais.
Pour résumer, ce que vous reprochez vraiment au service de la mairie, c'est pas l'application du principe de précaution, car le maire est quand même tenu juridiquement à la sécurité de la voirie notamment, mais à la rétention d'informations alternatives sur les modes de consolidation, notamment la maçonnerie plus traditionnelle qui pourrait sécuriser les lieux, quoi.
Tout à fait.
Vous reprochez,
dans un premier temps, au niveau uniquement de l'histoire de la carrière, c'est vrai qu'on lui reproche de ne pas avoir poussé les études et de s'être engouffré dans une étude théorique pour prétendre que ça va s'écrouler, alors que c'est pas du tout suffisant. L'étude elle-même préconise à la fin d'intensifier les recherches. Elle précise que son étude n'est pas complète, qu'elle prend pas tout en compte, que il faut aller plus loin pour effectivement s'assurer qu'il y a un péril ou pas, hein, c'est pas suffisant. Et puis effectivement, dans les recherches alternatives, il y a rien eu. On est dans une volonté pure et dure de détruire le patrimoine. On n'est pas du tout dans une volonté de préservation, alors que pourtant, c'est vrai que ce qu'elle nous explique dans ces petits livres de propagande, la mairie, c'est qu'elle est dans une volonté de préservation du patrimoine, alors qu'elle fait réellement tout l'inverse.
Et pour compléter, il y a même des géologues d'organismes très connus qui ont fait des diagnostics sur des mines et des carrières dans le monde entier, qui ont dit il faut surtout pas faire ça. Il y a des scientifiques qui disent exactement l'inverse de ce que dit le rapport de l'INERIS, qui est, comme dit Magdalena, c'est un document qui est uniquement basé sur une modélisation avec des algorithmes. Donc il y a des gens qui sont spécialistes du terrain et qui vont sur place, qui connaissent les carrières, qui y sont allés depuis des années et des années, qui disent le contraire. Ils disent que tout le coteau peut bouger si on met trop de poids, si on change les équilibres hydrauliques de la... Si on met en pression l'eau dans... Parce que, en fait, les carrières sont des drains naturels. Donc, on peut très bien... On a dit au maire, mais si vous avez une étude qui dit que il faut combler. Ceci dit, à la fin de l'étude, l'INERIS a dit, moi, je n'engage pas ma responsabilité sur ce document. Ce n'est pas suffisant, comme le dit Magdalena. Ils ont dit, c'est pas notre responsabilité qui sera engagée, c'est celle du maître d'ouvrage. Bon. Donc, nous, on a dit au maire, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas payer d'autres analyses, au moins faisons un débat d'experts entre ceux qui sont contre le comblement et ceux qui sont pour. Ah non, non, on a étudié toutes les solutions, il n'y aura jamais de débat. Donc s'il ne veut pas de débat, c'est bien qu'il y a un problème. Et ça... Il joue aussi sur un deuxième tableau, c'est-à-dire que en prenant 43 000 tonnes, je crois, des blés de chantier du Grand Paris, le maire est aussi un bon élève au niveau du Grand Paris. Donc vis-à-vis de tous les... Il a écrit au début que c'était un côté vertueux de prendre des blés du Grand Paris.
On en reparlera dans un instant. Alain, vous voulez dire?
Oui, moi je voulais essayer de répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi justement il y a eu tout au long des dernières années un certain nombre de projets qui ont été finalement remis en question. Et pourquoi aujourd'hui il semblerait que ce projet-là peut-être risquerait d'aboutir, quoi. Et moi, il me semble que c'est lié complètement, ça a été dit, à l'évolution actuelle du Grand Paris. C'est-à-dire que le projet du Grand Paris permet finalement d'intervenir sur un certain nombre des territoires et de donner finalement une espèce de bonus, je dirais, aux projets qui sont proposés. Bon, l'appel à projet dont tu as parlé, Magdalena, là, qui est Inventons la métropole du Grand Paris, je peux en dire deux mots rapidement parce que je pense que c'est lié complètement. C'est donc l'appel à projet, c'est un appel à projet donc à les architectes pour aménager un certain nombre de zones. Il y a trois phases. Il y a eu un premier appel à projet, un deuxième et un troisième qui est en cours. Il y a une centaine de lieux qui sont concernés sur l'Île-de-France. Ça va d'un quartier de trois rues à des projets énormes du genre à Antony, par exemple, ce qui s'appelle Antony-Paul, qui serait carrément un quartier entier qui serait construit. Et évidemment, sur des zones qui sont soit d'anciennes zones industrielles, soit des zones de bureaux inoccupés. Alors d'un côté, effectivement, on récupère des bureaux inoccupés, mais on construit des bureaux ailleurs qui eux-mêmes vont être inoccupés. Donc on est là dans un délire. Voilà, et donc ces projets, en tout cas, si on prend les 100 projets, là, je vais dire passer un peu en revue rapidement, il n'y en a aucun. Alors, ils font tous du greenwashing, comme on l'a dit, mais il n'y en a aucun, par exemple, qui propose des alternatives en termes agricoles, etc. Ça n'existe pas. Tout ce qu'ils proposent, c'est les espaces verts, plus ou moins améliorés. Et là, je pense que, pour revenir à Meudon, ça risque d'être. Si cette fois-ci ça passe, ça sera du fait qu'il y aura ce soutien du Grand Paris. Et c'est bien pour ça qu'à mon avis, il faudrait... Alors, la question de la carrière est importante, mais il faut vraiment replacer ça dans un contexte beaucoup plus global et savoir comment s'opposer à ça. Pour revenir un peu justement à un côté anecdotique, si empêcher que les carrières soient comblées arrive à faire ce qui se passe à Issy-les-Moulineaux, c'est pas très intéressant non plus, puisque en gros, là, les carrières d'Issy-les-Moulineaux, effectivement, ne sont pas comblées. Mais bon, j'ai mis dans mon article, c'est un lieu qui a été privatisé, donc avec des caves à vin privées, avec un restaurant, un chef qui s'appelle Yves Legrand, qui a un restaurant qui s'appelle Issy Guinguette, et puis il y a même les pistoliers d'Arcueil qui en ont fait un stand de tir. Et bien, donc tout ça, attends, juste je termine, tout ça ne correspond pas tellement à ce que nous on peut attendre de ce que peuvent devenir les carrières de Meudon. Si c'est pour en faire un lieu de gentrification finalement, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est pas très intéressant non plus.
Et bien, merci Alain, ça me permet d'amener une question que je voulais poser un petit peu plus tard dans l'émission, mais avant d'écouter un dernier passage musical, je voulais vous demander, vous, quelle carrière vous voudriez et quel Grand Paris vous voudriez. C'est une question un petit peu large, mais si vous aviez réfléchi à des affectations... le soir de votre...
Bah, nous, on y a réfléchi, effectivement, à des idées, non pas uniquement pour la carrière, mais on est plutôt, d'une manière générale, cette colline, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des atouts au-dessus, il y a des atouts en dessous. Le dessous, bah, déjà, il me paraît évident que s'il y a besoin de le mettre en sécurité, mettons-le en sécurité, mais en ne le détruisant pas. Et puis, une fois qu'il sera mis en sécurité, ouvrons-le au public. Il est quand même classé, on en a peu parlé, mais pour plusieurs choses. Il est classé pour son côté scientifique, donc on pourrait faire des visites pédagogiques pour tous les enfants de la région, pour qu'ils découvrent in situ ce que c'est la géologie, ce que c'est la paléontologie. Il y a énormément de scientifiques qui aimeraient présenter ces lieux aux enfants. On pourrait également le faire visiter à énormément de gens qui font des études sur l'architecture, puisqu'elles sont quand même classées pour leur architecture, on n'en parle pas. Mais regardez vraiment les photos, c'est Arnaudet, c'est des centaines de voûtes en ogive, comme un petit peu dans des églises romanes, qui se dressent à 20 mètres sous terre, taillées directement dans la pierre. On pourrait aussi envisager de faire des sculptures dans cette carrière, puisqu'on a quand même le musée Rodin qui est en surface, et on pourrait vraiment faire un parallèle entre le sculpteur qui est mort sur cette carrière et la carrière qui est en dessous. Et puis pour la surface, évidemment, on peut faire beaucoup d'autres choses. Cette ancienne friche, on peut enfin la nettoyer et en faire, là, pourquoi pas, un parc public, puisqu'il n'y a pas d'arbres à proprement dit. Et ce bois, mais gardons ce bois et gardons cette colline verte pour tous les habitants de Meudon qui ne demandent que ça, un espace pour que les enfants puissent courir partout sans avoir de voiture, de route et de bâtiments. Ne remplissons pas les sous-sols de béton, laissons la terre se faire. On pourrait envisager des jardins partagés, des potagers, on pourrait vraiment envisager beaucoup de choses.
Culture souterraine, c'est peut-être l'avenir de
donc un lieu de pédagogie en somme.
On peut faire un projet du futur extraordinaire avec une architecture souterraine qui va vers... Il y a eu un projet d'un élève architecte qui a fait un projet magnifique avec une tour qui sortait comme ça des carrières. Il y a eu un projet aussi d'un paysagiste remarquable. Il y a plein de choses qui sont prêtes. Quand on dit qu'on n'a pas de projet, c'est faux. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites. On peut se dire que ça servira d'abri pendant la guerre, ce qui a été le cas. La dernière guerre, l'autre jour, quand on manifestait, il y avait une dame assez âgée qui était là, 96 ans, et elle me dit « Ah mais non, mais ça, il faut absolument préserver. Quand j'étais petite, mon père était médecin, et on se réfugiait dans la carrière, et mon père médecin venait faire ses consultations aux gens qui étaient malades dans la carrière. C'est tout fait, hein. Il n'y a pas besoin de construire un abri, il existe. Pour faire de l'agriculture souterraine, il n'y a rien besoin de faire. » Il a été prouvé qu'on avait fait des champignons, mais on peut faire des pousses, on peut faire des endives, on peut faire un truc incroyable. 8 km, on peut faire beaucoup d'activités. On peut refaire des concerts, on peut faire des projets avec des artistes qui, justement, font quelque chose de différent. Puisque ça existe, on peut avoir un projet qui fait venir des artistes du monde entier pour avoir un projet vraiment phare. Être une commune intéressante parce qu'elle va enfin faire quelque chose de nouveau. Eh ben non. L'inverse.
Bon, alors, un lieu de pédagogie, un lieu d'éveil, un abri anti-aérien. On a encore d'autres choses à découvrir sur cette carrière. Juste après, Hugo TSR, Les vieux de mon âge, un hymne à rester jeune, qu'importe la date de naissance.
Tu vis au crochet de la société.
Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Et ça, c'est pas juste.
Bon, tu sais que les gens comme toi sont le cancer de la société, hein.
Enfin, là, t'exagères quand même.
Je suis dur, mais c'est vrai. Et comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil? Dire, vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi?
Tu l'as décroché, vendeur du mois sans déconner. Décoré, ils ont plus des amis, ils ont des collègues, des connaissances, de connaissances. Tu vois le truc, ils m'en diront pas plus, vendraient leur âme pour une belle voiture. Les vieux de mon âge pensent que le bonheur est dans un caddie à Darty, que l'arrêt dans les galeries à Paris. Tape sous les ordres d'un gros tyran, dans leur discours rien de motivant. Ils parlent de meufs, de mode, pour eux j'ai le mode de vie d'un mort vivant. À part la merde qu'on leur sert fini, ils écoutent plus de son. Pour eux je suis un extraterrestre, je regarde même pas la coupe du monde. Ils demandent toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie. Après 3 ans en entreprise, ils prennent l'accent de la vie. Tu peux rester jeune, même marié et 2 enfants. Il vient de souffler 25 bougies, t'as l'impression que le mec a 200 ans. C'est pas bon non plus quand je viens pisser dans tes pots de fleurs. Turbulent, irresponsable, je suis dans le coma, dans mon fauteuil. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la morale, je la regarde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. j'exaucerai mes vœux. Allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges. Ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir. Maintenant les flics, ils ont mon âge, ils veulent me saboter le moral. Inculpez-moi, libérez-moi, dans les deux cas, niquez vos races. Les vieux de mon âge soupirent quand ils me voient fumer de la beuh. Je subis leur peau d'échappement, ils pensent que le monde est à eux. Y'a de quoi perdre la tête, ça ira pas, même sous effet ralgant. Target, fanbase, ils parlent de toi comme si t'étais de la viande. Je mets pas les pieds là-dedans, vie menaçante à tes ivresses. C'est navrant, leur pas l'hiverne. Moi je manifeste comme on le faisait avant. Ils jouent les écolos avec leurs poubelles jaunes. Que de la frime, ça joue les activistes avec un Big Mac Coca frites. C'est pollué, mais dans ma rue, j'ai pas vu Greenpeace. Reçois que des factures, j'ai peu de correspondance comme une ligne bis. Je prépare mes conneries, ils me parlent de financement. Vu ma génération, c'est un mauvais coton qu'on file en France. Allez, finis vite, je te laisse parler comme ça, t'es content. Oui, oui, t'es plus malin que moi, allez, bon vent. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la noire, je la regarde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges. Ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir. Je les vois comme des vieux, c'est peut-être moi qui ai un souci. Souvent sous-tise dans cette vie, tout va trop vite, besoin de sous-titres. Je sais qu'il faut que je mûrisse, faut grandir. Mais pour le moment, j'évite. Moi aussi, je suis riche, j'ai plein de yaourts, mais faut les manger vite. Ils mettent des œillères et ce serait moi la brute épaisse. Avant de bouffer ta viande, regarde comment on bute les bêtes. Sa deuxième paire de couilles est sur son chien d'attaque. Ils en veulent à mon flash, ça fait plus chic d'avoir du vatap. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je leur retourne la question. Ben alors, ça dit quoi? Bande de lâches, pas de réponse, hein. Ils ont raison, je tourne en rond, la même patate dans l'estomac. Oui, tout pas que c'est mieux, tu comprends pas un mot d'anglais, connard. Y'a pas à dire, ils me font marrer quand ils font les artistes. Ils ont perdu la fougue, ils sont figés comme le front des actrices. C'est les rois sur leur trône imaginaire. Ils savent tout et chaque année, y'en aura plus. Alors faudra s'y faire. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la nourrage, je la regarde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges. Ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir.
En général, les gens ne m'aiment pas parce que, en fait, ils voudraient être moine. Alors, pas parce que j'ai la prétention d'être un type exceptionnel, mais parce que j'ai une liberté telle que les gens la revendiquent, cette liberté. C'est-à-dire, ils voudraient être aussi libres que moi. Et alors, ils sont obligés de faire des travaux, quelquefois, de commandes.
Oui, mais ils sont sur Radio Libertaire, le troisième café, j'espère, bu pour tous les auditeurs. Tout le monde est bien réveillé. La radio de la Fédération anarchiste, le chiffon qui radote. Donc, le chiffon, je vous le rappelle, c'est le journal indépendant de Paname et sa banlieue. Un journal associatif qui n'est composé que de bénévoles. En vente, dans certains points de vente, je me suis enhardi tout à l'heure, il ne s'agit pas de tous les kiosques, mais de certains points de vente dont vous trouverez la liste sur lechiffon.fr. Et nous sommes en compagnie d'amoureux de la nature, de militants qui protègent, ou en tout cas défendent, la carrière de Meudon, un lieu chargé d'histoire. Et je vous propose tout de suite un petit tour de table des différentes associations, car il y a du beau monde autour de cette table. Olga, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus l'association ou les associations pour lesquelles vous êtes engagée, et passer la parole à vous.
Alors, je suis dans plusieurs associations meudonnaises, mais la principale dans cette lutte, c'est Vivre à Meudon, qui est une association qui est composée de gens très très différents, qui est une association ancienne et qui, comme son nom l'indique, elle défend le cadre de vie à Meudon, le bonheur de vivre à Meudon, la facilité de vivre à Meudon. Et évidemment, elle ne pouvait être que choquée par ces projets et donc à fond dans pour soutenir cette destruction. Alors, il y a plein de gens chez nous. Hein. Il y a des architectes qui sont aussi vent debout. Il y a des ingénieurs. Il y a des gens qui sont maires au foyer. Il y a beaucoup de gens différents.
Et ça, dites-nous d'ailleurs, oui, la sociologie du militant. Est-ce que vous avez l'air de dépeindre un profil assez multiple. On n'est pas forcément dans le cliché du jeune militant.
Oui, alors, pas du tout. Non. Nos assemblées sont très, très. Les gens sont très polis, très gentils. Tout le monde se soutient, tout le monde se connaît. Non, non, et d'ailleurs, on a aussi des très bonnes relations avec les autres associations de Meudon qui font la même chose, le comité des sauvegardes des sites de Meudon, qui est aussi impliqué dans cet abominable combat, mais qu'on ne devrait pas avoir, en fait, à faire. Moi, au départ, quand je suis arrivée naïvement à Meudon, je suis allée voir le maire et je lui ai dit, voilà, j'ai un peu de temps de libre, mes enfants sont déjà plus des bébés, donc je peux m'occuper de choses pour la mairie, si on peut aider, voilà, j'ai du temps de libre, j'ai vécu à droite à gauche, j'ai appris ailleurs ce que c'était que l'entraide, le bénévolat. Et donc, ça m'intéresserait de faire quelque chose. Et il m'a répondu. Alors moi, j'étais très consciente que la nature était très mise à mal parce qu'on abîme les arbres, on les élague de façon un peu tempestive et coûteuse et dramatique. On en abat certains qui sont en parfait état. On utilise toujours le terme de compensation, mais c'est un mensonge, hein, la compensation. Ça, c'est du greenwashing. On ne compense pas le service écologique à 100% d'un immense arbre avec le service écologique que rend un petit arbre qui vient de naître. Il lui faudra 20 ans, 30 ans avant de rendre le même service. Donc ça, j'en étais déjà consciente. Le maire de l'époque, c'était Hervé Marseille, il m'a répondu « Moi, un arbre, ça m'en touche une, ça ne me fait pas bouger l'autre. » Ce que j'ai trouvé vulgaire, stupide et vraiment inapproprié dans une ville où il y a pareil patrimoine, mais bon, c'est comme ça. Donc, il n'y en a absolument rien à faire. Et il m'a dit, bah, écoutez, il y a des associations de femmes. Enfin, ça voulait dire un peu aller tricoter, fichez-moi la paix. Et il a fini en me disant, il y a beaucoup trop de politiciens à Meudon qui m'emmerdent, notamment le président de Vivre Meudon de l'époque, et, parce qu'ils réfléchissent et qu'ils font des pétitions, ils font des actions contre des actions de la mairie. Donc non, j'ai pas du tout besoin de vous. Et voilà, je suis repartie en me disant, étrange.
Magdalena, vous avez aussi un CV.
Moi, sur cette lutte, j'ai commencé en tant qu'amatrice du patrimoine souterrain, puisque je, dans mes activités extra-professionnelles, je suis quelqu'un qui descend beaucoup dans les carrières, qui est passionné par le monde souterrain de manière générale. Donc moi, j'étais déjà initialement dans plusieurs associations du patrimoine souterrain qui ont été effectivement les premiers à se battre sur cette carrière, puisqu'on était au courant que de la phase 1. Donc des associations comme la Fédération française de spéléologie, l'OCRA, la CEDA, qui sont plein de petites associations qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais qui sont des associations qui défendent le patrimoine souterrain francilien, national, etc. Et puis c'est vrai que quand on a découvert la phase 2 et la phase 3 dont je vous ai parlé, notre mouvement s'est beaucoup étoffé, puisque nous ont rejoint dans cette lutte des associations auxquelles du coup j'ai adhéré, comme l'association Arcite, hein, qui est une association qui se bat pour le patrimoine naturel et paysager d'une manière plutôt générale, et des associations également plutôt à visée écologique comme France Nature Environnement. Et puis c'est vrai que dernièrement, notre lutte s'est beaucoup élargie, puisqu'on a réussi à fédérer avec nous de nombreuses associations qui sont à visée plutôt nationale et sur le plan écologique, comme Youth for Climate, des associations comme Cité Monument, Environnement 92, Alternatiba et donc notamment Extinction Rebellion, qui justement, quand ils ont découvert tout ça, évidemment, nous ont rejoints. Je te laisse la parole, Nikos. Tu sauras en dire beaucoup plus que moi.
oui, alors sur. C'est quoi la question déjà sur, sur vous. Déjà, je me présente
vous et
en tant que militant.
Tout le monde ne connaît pas.
Bon, ah oui. Alors, donc, moi, comme je disais, je suis militant Extinction Rébellion. Donc, c'est un mouvement de désobéissance civile non violente, internationale, horizontale et décentralisée, donc présent partout dans le monde, en lutte contre l'inaction climatique et l'extinction du vivant. Voilà, pour résumer en une phrase. Ça prendra un peu de temps de présenter le mouvement, mais disons qu'on a 4 revendications et 10 principes. Nous ne sommes pas une association, et toute personne qui adhère à ces revendications et ces principes peut se revendiquer d'Extinction Rébellion. Voilà pour le principe. Donc c'est un mouvement qui est assez jeune, hein, qui est né en 2018 en Angleterre et qui s'est très rapidement propagé dans les mois suivants. Et sinon, donc, j'ai rejoint le collectif et cette lutte là, des carrières anodées en tant que meudonnais d'abord, à la base, puisque j'ai pris connaissance sur le tard de ce comblement de carrière. D'ailleurs, quand on lit, je vais refaire une petite parenthèse sur le greenwashing, mais c'est vrai, quand on lit l'article du journal municipal, si on n'est pas un minimum au courant de ce qui se passe, on passe complètement à côté, quoi, parce qu'il y a du greenwashing, il y a du mensonge par omission, etc. Donc, voilà. Donc là, j'étais, c'est via, d'ailleurs, l'information a été relayée via nos outils XR, où j'ai appris qu'il y avait une manifestation qui se préparait à Meudon pour défendre ses carrières. C'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que toutes les solutions juridiques avaient été épuisées, on s'est dit, bon, il était temps peut-être de trouver d'autres moyens de lutte, d'autres moyens d'action. Et donc, ça a été une des solutions possibles, c'était de faire une action de désobéissance civile, comme on fait régulièrement à Extinction Rébellion. Voilà. Et qui a été faite en septembre dernier. 16 septembre.
Donc, comme vous l'entendez, une table de militants, avec bien sûr Alain, notre rédacteur, enfin un de nos journalistes au chiffon. Je voulais faire un petit retour en arrière de savoir comment vous êtes arrivé à la lutte. J'ai la chance d'être assis avec, nous sommes trois générations dans le même studio, à peu près, plus ou moins. Et du coup, j'aurais peut-être voulu m'adresser aux aînés d'entre nous, de savoir qu'est-ce qui a peut-être changé dans le combat militant. Entre l'avant Internet et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des rhétoriques qui ont changé, des manières de militer?
Oui, tout à fait, parce que moi, au départ, je suis plutôt. J'ai travaillé toute ma vie, j'étais cadre habilité secret défense, donc vous voyez, je suis quelqu'un d'assez sérieux. J'étais pas du tout politisée, absolument pas. La défense de la nature m'a toujours concernée. J'avais une mère qui était très très concernée par les problèmes d'eau. Elle était assez avant-gardiste parce qu'elle nous parlait toujours de l'eau comme un bien rare qu'il fallait préserver quant à sa composition. Et puis bon, elle détestait les insecticides, les pesticides, tout ça. Donc c'est vrai que j'avais une culture familiale plutôt orientée vers la nature qu'il faut garder sauvage et pure. Et puis après, quand j'ai vu toutes les actions de la mairie et en général du gouvernement qui font l'inverse, c'est-à-dire qui abîment les nappes phréatiques, qui abîment la végétation, qui abîment les populations de papillons, d'oiseaux, il y a même des renards dans le bois dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un équilibre de biodiversité incroyable quand on voit qu'avec notre argent, parce que c'est de l'argent public, il faut savoir que ce comblement, il va coûter 6 millions au bas mot, que la mairie dépense des budgets importants pour gardienner cet endroit. Alors que, voilà, elle ferait mieux de mettre un assistance puce dans des écoles ou de repeindre le portail des écoles qui sont rouillées. Donc quand on voit l'argent qui est mis là-dedans à des fins, capitalistiques, mais c'est pas qui ne va plus avec notre époque, j'ai pas pu faire autrement que de m'engager. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais assez à fond. Donc, mais j'ai déjà fait deux gardes à vue à cause de la mairie, qui prétend que je suis folle, mais mes enfants, quand ils m'ont vu en garde à vue, ils ont dit « Ah, bienvenue au club !» Peut-être on n'aurait pas cru que tout nous rejoindrait. Mais c'est maintenant, je dois dire que je suis extrêmement motivée pour arrêter tous ces projets stupides, écocidaires, destructeurs du vivant et nuisibles à l'homme, évidemment, parce qu'on ne va pas survivre si on continue comme ça. Ça ne sera plus possible de vivre dans des systèmes complètement artificiels.
Et d'ailleurs, sur les gravats, d'après le cahier des charges, on nous dit que ça ne doit être que des terres inertes ou des gravats non polluants. Et a priori, pas de déchets du Grand Paris Express. Sauf qu'il y aurait peut-être une exception si les déchets du Grand Paris Express répondaient au cahier des charges. Du coup,
c'est pas compliqué. Le comblement devrait déjà être terminé. Si nous n'étions pas battus, le comblement serait déjà terminé, les immeubles seraient déjà en train d'être construits. Donc en fait, à l'époque où le dossier a été monté, le comblement devait avoir lieu avec les déblais du Grand Paris et du creusement notamment des gares. C'est ce qui était prévu dans les dossiers de la mairie. Sauf qu'effectivement, on a fait beaucoup de procédures, etc. Et donc, on a fait retarder ce chantier. Évidemment, le Grand Paris n'a pas attendu après la mairie de Meudon pour creuser ses gares. On l'imagine bien. Donc, les déblais des gares sont partis ailleurs. Donc, la mairie est bien embêtée. N'a plus les fameux déchets des gares qu'elle souhaitait, selon ses dires, valoriser dans les carrières arnaudais, puisque désormais, il faut quand même le savoir, hein, on ne valorise plus les sites classés, on valorise les déchets de chantier. En Ile-de-France, c'est un amas de déchets considérables qu'on a partout. Donc désormais, on est dans la valorisation des déchets. C'est ça l'objectif maintenant de nos sociétés. Donc on ne peut plus valoriser les déchets du Grand Paris dans le site classé d'Arnaudet, puisqu'ils ont déjà été valorisés ailleurs. Je ne saurais pas vous dire où. Ils ont fait des terrils ou je ne sais quoi dans d'autres villes malheureuses qui ont dû faire des contestations à leur tour, à mon avis. Donc, n'ayant plus de déchets du Grand Paris, la mairie de Meudon s'est rabattue sur d'autres déchets qui sont très probablement des déchets de construction, qui sont des constructions immobilières qui ont lieu autour des gares du Grand Paris. Donc, on n'est plus dans la terminologie exacte de déblais du Grand Paris, effectivement. Et donc, la mairie, au lieu de nous dire « Oh ben merde, je n'ai plus mes déchets du Grand Paris », elle a créé une rhétorique autour de ça en nous disant que ce que nous exposions, c'était de la fake news. Nous ne sommes pas du tout en train de combler avec les déchets du Grand Paris. Vous dites n'importe quoi. Oui, c'est simplement que les déchets du Grand Paris, en fait, ne sont plus là et on comble avec d'autres déchets de chantier. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ce soit des déblais de chantier, du creusement des gares, des métros ou de la sururbanisation de l'Île-de-France. En fait, on s'en fiche, c'est des déchets de chantier, des extractions de chantier qui, déjà, un, n'auraient pas dû avoir lieu et qui, deux, ne devraient pas se retrouver dans les sous-sols classés de nos villes. Voilà.
Et ils sont censés être des terres inertes, donc les contrôler à chaque camion. Et en fait, on est à peu près persuadé qu'ils ne sont jamais contrôlés. La nappe phréatique qui est en dessous, elle peut subir donc des dégradations dues à ces passages de camions et à ce dépôt de terre quand il y aura des pluies. Et normalement, il devrait y avoir des analyses. On n'y a pas accès. Tout est secret des affaires. On n'a même pas accès au marché entre la mairie et la société qui fait les travaux. Oui. Soi-disant secret des affaires. C'est faux. Ils n'ont pas le droit de dire ça. À partir du moment où c'est de l'argent public et où il y a des chantiers qui concernent la commune, on doit avoir accès à ces chantiers, à ces dossiers. Non, on n'a pas accès.
Oui, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a des analyses qui doivent être faites hein, sur, notamment, comme tu le dis si bien, la nappe phréatique et également sur la nature des déblais. Toutes ces opérations d'analyse sont faites par la société qui s'occupe de combler et non pas par des organes extérieurs. Et donc, si vous voulez, l'opacité, c'est la plus complète. Donc, effectivement, on ne sait pas du tout à quelle sauce on est en train d'être mangé et on n'est pas à l'abri d'avoir effectivement de gros soucis d'ici quelques années sur la nappe phréatique, la qualité des sous-sols de Meudon, etc.
Et vous, plus personnellement, dans votre vie militante, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que le fait d'avoir eu un impact, de savoir que les constructions seraient achevées si vous n'étiez pas intervenu, est-ce que vous êtes plutôt galvanisé par ça? Est-ce que vous cédez des fois au désespoir en voyant des puissances bien supérieures à vos petites épaules?
Pardon. Oh bah ouais, c'est... Non, je comprends, mais c'est vrai que c'est ça pourrait paraître hyper décourageant, mais c'est vrai que déjà de se rendre compte qu'on n'était pas les seuls, hein, parce que on est dans notre petit souci de Meudon avec à l'époque nos déblais du Grand Paris qui allaient arriver dans nos sous-sols. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait des luttes autour de nous partout, dans toutes les villes autour de Paris, des gens qui se battent partout, à Gonesse. On veut creuser des trucs et détruire des terres agricoles partout, à Saclay. Tout ça, c'est des collectifs. C'est des collectifs qui nous ont rejoints, effectivement, à Bondy. Enfin, en fait, il y en a partout. Le Grand Paris détruit tout sur son passage, que ce soit en sous-sol ou en surface.
Les Jeux Olympiques.
Oui, voilà, on rajoute effectivement à ça les Jeux Olympiques, hein, bien sûr. Des luttes, il y en a partout et on n'est pas tout seul. Et que ce soit notre lutte qui réussisse ou la lutte qui est à côté, il est important de continuer de se battre. Et si on peut en sauver une, on en sauverait une. Et si on peut en sauver 10, on en sauverait 10. C'est un peu ça l'objectif maintenant.
Eh bien, très bien, vous m'amenez à la toute dernière partie de l'émission parce que nous allons être pris par le temps. Et on a assisté en septembre, fin septembre 2022, à une demande de moratoire sur les projets de ligne de métro du Grand Paris Express pour faible trafic, et c'est un des collectifs qui défend les terres de Gonesse. Donc là, ouais, la construction de ces lignes détruirait plusieurs milliers d'hectares de terres arables dans la région du plateau de Saclay au sud-ouest de Paris. Et tout ça pour une ligne de métro qui ne serait pas si fréquentée que ça. Et du coup, je voulais vous demander un peu votre rapport avec les autres acteurs. Vous m'aviez dit en off que vous prêtiez des fois des... Donc il y a une vraie solidarité dans tous les combats de même nature en Ile-de-France.
Ouais, il y a vraiment une réelle solidarité. Il y a quand même carrément une coordination des luttes locales en Ile-de-France qui a été montée. Hein, où on est dans des boucles ensemble, on se parle, on se prête du matos, effectivement, on se soutient les uns les autres. Parce qu'en fait, on est dans le même bateau, on défend exactement la même chose, on veut tous la même chose. On veut qu'on arrête de sururbaniser la région Ile-de-France, on est déjà tous. C'est l'inverse, en fait, qu'il faut. Vers quoi maintenant il faut se diriger, donc on est plus fort ensemble. Donc, ouais, il y a vraiment une réelle convergence des luttes qui s'organisent en Ile-de-France entre effectivement Gonesse, Saclay, j'en passe, hein, Romainville, Bondy. Enfin, il y a vraiment des luttes partout. Donc, on est vraiment tous effectivement bras dessus là-dessus. Et certains militants sont sur plusieurs luttes. Nous, on a chez nous des militants qui sont en même temps à Gonesse. On a vraiment des points de vue tellement partagés qu'on se retrouve dans les luttes des uns et des autres. Ouais.
Et heureusement, c'est ce qui rend la lutte supportable et intéressante. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt revigoré par des gens qui sont de milieux très différents, d'horizons très différents, de métiers très différents, et où on se rejoint tous avec gentillesse, avec non-violence, hein, parce que évidemment on essaye de raconter qu'on est violent, bien sûr, mais tout ce qu'on fait c'est absolument non-violent, et y a une espèce d'énergie et de gentillesse et de bienveillance de tous ces gens qui travaillent ensemble pour sauver, hein, l'humain, et notamment en Ile-de-France, que en fait ça en fait, pour moi c'est vraiment une belle lutte, c'est quelque chose de très positif et enthousiasmant. Et du coup on a tous une énergie phénoménale. Magdalena, elle travaille, je sais pas, elle dort peut-être quand on entend, mais pas beaucoup sans doute. Elle travaille énormément, Nikos aussi. On a des journées quelquefois très remplies avec l'organisation de tout ça. Il y a une manif qui va s'organiser, une conférence bientôt. Donc,
c'est peut-être le moment, si vous voulez passer des annonces précises pour les auditeurs, oui, de futurs rendez-vous, n'hésitez pas.
Oui, c'est vrai qu'on a des actions à venir, effectivement. On va organiser, déjà pour commencer, on va être présent au Salon du Patrimoine le jeudi 27, hein, qui est un salon qui se tient au Carrousel du Louvre, hein, puisqu'on a l'association Cité Monument, qui est quand même une des plus grosses associations françaises qui défend les sites classés en France, qui nous prête son stand pour une journée pour qu'on puisse effectivement faire connaître notre lutte. Ensuite, on organise une manifestation à laquelle d'ailleurs vous êtes tous et bien évidemment conviés si vous êtes contre tout ce dont on vient de parler, qui va avoir lieu devant le ministère de l'écologie, qui aura lieu donc le samedi qui suit, qui doit être 29. Le 29, ouais, c'est ça, samedi 29, à 14h30. À 14h30, donc devant le ministère. Et c'est vrai qu'ensuite, on essaie, alors la date n'est pas encore arrêtée, mais on essaie d'organiser une conférence à Meudon avec pas mal d'intervenants, de conférenciers, etc., pour pouvoir faire des tables rondes et discuter un petit peu des enjeux qui se jouent sur et sous la colline Rodin.
Et les autres endroits où il y a des problèmes à Meudon, parce que, bien sûr, c'est pas le seul.
Oui.
Parce que... Mais quand il n'y a pas classement, ça passe plus vite. C'est-à-dire que s'ils veulent construire, c'est le cas actuel, sur un domaine où est implanté le CNRS qui vend ses terrains, bon, s'il y a une carrière dessous, ce qui est le cas, ils vont combler et personne n'en saura jamais rien. Donc ils n'ont même pas besoin de faire un énorme dossier pour défendre leur point de vue. Ils y vont.
Direct. Très brièvement, pour la culture générale de tout le monde, vous décriviez la procédure de classement était très lourde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot rapide?
Ce sont des... D'abord, il faut être habilité pour déposer une demande de classement. il faut avoir un dossier sérieux qui prouve qu'il y a un intérêt à classer. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué. Il y a une procédure actuellement qui a été faite pour déclarer toute une partie de Meudon en domaine national. Alors c'est autre chose, c'est au niveau national, donc c'est encore plus complexe, mais ce sont des dossiers qui sont qui doivent être menés par des gens compétents, qualifiés,
Mais ouais, pour en revenir à Arnaudet, en tout cas sur la procédure de classement, sur la carrière à Arnaudet, c'était une procédure de classement très rude, effectivement, en 86, qui a permis d'aboutir au fait que la carrière à Arnaudet a été d'intérêt général. Et ça, c'est des mots du Premier ministre de l'époque. Et ces classements-là, en fait, interdisent, diffèrent tous travaux, sauf autorisation spéciale. Donc là, on est dans ce cas d'autorisation spéciale.
Très bien, mais je vous remercie tous. On va se quitter avec cette notion d'intérêt général. Je laisse les auditeurs la méditer pendant le mois qui suit. Donc c'était Le Chiffon qui radote avec, je le rappelle, Magdalena Labbé, Olga Boss, Nikos et Alain Dordé, la plume qui nous réunit autour de son article. À la technique aujourd'hui, Gary, pilier et taulier du chiffon, présenté par votre fidèle serviteur Laurence. Le Chiffon, je le rappelle, le journal indépendant de Paname et sa banlieue, en vente dans les échoppes autorisées dont la liste figure sur le site internet du Chiffon. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour être au courant de nos futures bouteilles à la mer, ou billets d'humeur ou recherche longue sur les tendances du moment. Donc rendez-vous dans un mois pour la prochaine émission. Vous avez un mois pour venir nous écrire, pour venir écrire dans le prochain numéro, ou trois pour écrire dans le suivant. Car rappelez-vous toujours que ce journal n'existe que par la passion de ses petites mains. Et si vous êtes passionné et que vous avez des mains, venez donc nous rejoindre. Je laisse la parole à la musique.
Мана на мост, мана на мост. Thank you.